Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, un peu spéciale cette semaine pour la dernière de la saison. Le dernier niveau, eh ben je m'attaque au Big Boss, François Bunel, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Ça faisait longtemps, très longtemps que je voulais visiter votre bibliothèque. Et quand je vous en parlais, vous me disiez « mais oui, mais ils ne sont pas à Paris, mes livres, c'est compliqué et tout ça ». Et donc bah là, on a fait l'effort avec Fabien Duchesne, l'ingé son. On est venu jusque chez vous, on est à quoi, une heure et demie de Paris, dans un petit village. Vous n'êtes pas parisien en fait?
Je ne le suis plus. Je l'ai longtemps été, j'ai adoré Paris, j'adore toujours, mais voilà, ça fait partie des mouvements de la vie. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Paris, notamment Paris la nuit. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça, être parisien. C'est plutôt y revenir qu'y vivre.
Mais là, aujourd'hui, vous ne vivez plus du tout à Paris. Vous venez faire la grande librairie et merci, au revoir.
C'est à peu près ça. C'est-à-dire que je viens le mercredi ou le mardi, la veille de l'émission, pour voir mes équipes, mon réalisateur, et puis préparer l'émission, qui est en direct le mercredi soir. Et le jeudi, généralement, oui, je repars dans cet endroit. Vous voyez, magnifique. Alors, on pourrait le décrire aux auditeurs en disant que c'est en plein milieu de la campagne, qu'il y a une rivière pas très loin, qu'il y a des bois, une forêt,
on entend les champs, oiseaux et
on entend les oiseaux. Et finalement, c'est peut-être l'un des meilleurs endroits pour vivre, mais surtout pour lire. La lecture, c'est... vous, évidemment, Nicolas, vous pratiquez ça tout le temps. C'est à la fois un délassement, un divertissement, mais c'est aussi un travail. Et comme je lis entre 6 et 8 heures par jour, tous les jours, j'ai besoin d'entrecouper mes lectures d'une marche. Donc je vais me perdre dans les sentiers ou alors... à la campagne, vous savez, j'étais très marqué par, puisqu'on parle de lecture, il y a une phrase qui m'a toujours obnubilé, qui est une phrase de Cicéron, le grand orateur et poète romain, parce qu'on oublie qu'il était poète et pas seulement juriste, et qui disait « Si vous avez une bibliothèque, un jardin et une cave, alors votre vie sera paisible ».
Il y a tout, quoi. Et alors, avant d'allumer les micros, j'ai fait ce que je fais à chaque fois quand je vais dans un appartement visiter une bibliothèque. Je demande, est-ce que les livres sont dans un endroit précis? Est-ce qu'on peut les regarder juste avant pour essayer de voir un peu, comme ça, repérer où sont les polars, la littérature française, américaine, etc. Et est-ce qu'éventuellement, il y a une autre petite pièce, un petit bureau ou quoi, où il y aurait éventuellement d'autres livres qu'il ne faudrait pas oublier? Je vous ai posé la même question. Vous m'avez dit, le problème, c'est que c'est une maison bibliothèque. Donc, j'ai rien vu pour l'instant. Vous m'avez dit, en fait, c'est une maison qui a été construite autour des livres.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, nous sommes, il y a trois... c'est un corps de ferme, c'est une vieille ferme que j'ai restaurée depuis maintenant une quinzaine d'années. Au fur et à mesure, d'abord avec des amis, puis ensuite avec des professionnels, et on s'est dit, ce serait formidable que ce soit une maison livre, c'est-à-dire une maison dans laquelle il y a une cohérence. Je ne suis pas très classement, je ne suis pas très rangement, mais au bout d'un moment, faute de submersion, il a fallu que je me résolve à classer. Et donc, il y a une douzaine ou une quinzaine de pièces, en fait, qui sont dédiées aux bibliothèques.
D'accord.
Alors, il y a la bibliothèque...
Douzaine et une quinzaine de pièces dédiées aux bibliothèques.
Oui, mais parce qu'on est sur des vieilles granges.
Oui, c'est d'accord. Pour ça. Et là, alors, on est dans le jardin, dans la cour,
en fait,
avec des graviers qu'on entend aussi. Il y a un petit corps comme ça de ferme. Et Je vois, par les fenêtres, je vois effectivement des centaines, des milliers de livres. Est-ce que vous avez une idée du nombre ou ce serait vraiment trop vulgaire de les compter, quoi?
Non, ce n'est pas une question de vulgaire, c'est que j'ai arrêté. On a arrêté de les compter, je crois, quand on a passé les 15 000 ouvrages. Et il y en a à peu près le double, je pense.
On fait une toute petite pause et puis on s'attaque quand même au cœur du réacteur, c'est-à-dire... les bibliothèques, on y va.
Europe 1.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec François Bunel, chez lui, au fin fond de la campagne, à 1h30 de Paris, en Normandie, dans une jolie maison avec des livres partout. Pour l'instant, on est dans la cour, ça sent vraiment très bon, les fleurs et tout, il y a des arbres, on entend les oiseaux, c'est magnifique.
C'est le jasmin étoilé là-bas, c'est très
bien.
C'est
du jasmin, c'est ça ce qu'on sent là?
Oui.
C'est magnifique. Et alors justement, ça donne envie de lire. Et alors je vous suis, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais c'est une maison bibliothèque.
Alors,
je ne sais pas par laquelle commencer. Je vois quelques livres là-bas. Je ne sais pas si c'est là qu'on va ou pas.
Oui, on peut commencer par là, si vous voulez.
Comment c'est classé, cette maison bibliothèque? Vous savez où est chaque livre?
Je sais où est chaque genre. Là, par exemple, on entre dans une pièce qui est une pièce très importante parce que la lecture, pour moi, est capitale. Mais le cinéma est une autre passion, la musique également. Donc, on est dans une quasiment mini-salle de cinéma. Vous voyez, là, il y a un grand écran qui, quand il se déplie, me permet de voir les films que je rate parce que je lis tout le temps, donc je ne vais plus trop au cinéma, c'est un crève-cœur.
Et terrible. Vous avez même dégoté des fauteuils de cinéma, quoi.
Oui, parce que j'ai trouvé ça très drôle, donc j'ai récupéré effectivement 4 fauteuils rouges de cinéma dans un cinéma qui fermait.
Et alors les livres qui sont donc qui ne sont pas cachés par l'écran, puisque l'écran est remonté, voilà. Mais derrière il y a donc une
là,
grande
c'est le polar,
bibliothèque.
Le polar, le thriller, c'est très difficile de conserver. Je garde les coups de cœur, je garde en réalité les livres que j'aimerais lire. Vous savez, il y a une phrase extraordinaire qui m'a guidé longtemps, c'est celle de Jean Paulhan, qui disait, quand on lui demandait de présenter sa bibliothèque et qu'on s'étonnait du nombre de livres, il disait, vous savez, il y a des livres qui sont là pour être lus et des livres qui sont faits pour être là. Eh bien, ceux-là, ils sont faits pour être là, c'est-à-dire que...
Je vous resservirai de ça.
Je ne les ai pas encore lus, mais ça ne va pas tarder. Donc là, vous avez le polar, la fantaisie est ici. Alors, on trouve des choses quand même que j'ai gardées, c'est bizarre, parce que ce n'est pas réimprimé.
Il y a du Gaston Leroux, il y a du Fred Vargas, il y a aussi les polar, classiques ouais. Du polar, quoi.
Oui, parce que les classiques sont importants. Je crois qu'on se construit avec les classiques, parfois contre les classiques aussi.
Vous avez du Jean Rey, le Belge, qui est redécouvert en ce moment.
Alors, par exemple, ça, pour moi...
Malpertuis.
Oui, Malpertuis, de Jean Rey. 15 ans, choc immense.
Vous nous racontez ?
Oui, très simple. Vacances très ennuyeuses et j'ai un cousin qui lit beaucoup et qui me dit « Tiens, lis ça, tu vas voir, c'est incroyable. » Et en une nuit, j'avale Malpertuis, qui est l'histoire, pour faire très court, d'une maison qui semble hantée et dont on découvre page après page qu'elle n'est pas hantée mais habitée par les dieux de l'Olympe. Sauf que comme on ne croit plus dans aucun dieu, pas plus le dieu unique, que les dieux de l'Olympe, ces dieux ont perdu une partie de leur pouvoir. Mais ils sont là, parmi nous. C'est fascinant, et de Jean Rey, je plonge aussitôt dans Lovecraft, que vous voyez ici.
Attendez, juste, ça veut dire qu'on vient de tomber par hasard sur votre première rencontre avec la littérature, ou c'était quand même avant ?
Non, la première rencontre, c'est avant, et la première rencontre, elle n'est pas ici, elle est du côté des bandes dessinées, c'est Corto Maltese.
Ah, mais vous êtes entré dans la littérature par la bande dessinée ?
Ouais. Oui, par la bande dessinée. Et encore avant, c'était le journal Tintin. Et puis ensuite Astérix. Et puis ensuite Corto. Corto qui reste l'un de mes meilleurs amis.
Ah oui, vous êtes comme ça, vous aussi. Vous devenez le meilleur ami de l'écrivain que vous lisez beaucoup ou du héros ?
Plutôt du héros. Longtemps, mon meilleur ami s'appelait Aragorn. Ensuite, il y a eu Athos, le comte de la fer.
Ah oui, moi aussi,
j'aime beaucoup. Qui me semblait tellement...
C'est bien. Très classe, un peu sombre comme ça.
Vous étiez plutôt Athos que Aramis ?
Ah, moi, je suis D'Artagnan, moi.
Ah, vous êtes D'Artagnan ?
Ah, ouais.
Ah, mais moi, je le
trouve... Malgré tout.
Mais vous ne le trouvez pas un petit peu insipide, ce D'Artagnan ?
Non, mais en plus je vieillis, plus je suis Athos, bien sûr. Mais quand je suis arrivé à Paris à 22 ans, j'étais vraiment D'Artagnan, quoi. J'ai eu cette expérience de monter à Paris, etc. Et le courage que m'a donné D'Artagnan, il est très fort. Donc je le remercie, quoi.
Alors
quand j'étais gamin, j'étais D'Artagnan, comme beaucoup de gamins.
Ami auditeur, il vient de se produire un truc génial. C'est-à-dire que par un retournement de situation,
il a réussi à m'interviewer.
Oui. Qui est sur le divan et qui vient de vous faire, mais vraiment de façon brillante, la démonstration que la littérature est non seulement universelle, mais que tout est dit chez les meilleurs conteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Dumas invente ces personnages qui dit avec un siècle d'avance hein, à nous Paris, puisque ça se passe au XVIIe siècle et que Balzac, contemporain de Dumas, mais enfin viendra plus tard avec son
Rastignac
qui lancera ça du haut du cimetière du Père-Lachaise. Mais vous voyez, il y a tout déjà.
Et c'est vous, vrai. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous étiez plutôt Rastignac ou D'Artagnan ?
D'Artagnan aussi. Mais enfin, D'Artagnan m'a toujours semblé un petit peu suspect, parce qu'il était trop propre sur lui.
Ouais.
Il est très idéaliste, un peu niais quand même, hein. Très naïf. Il pense qu'il va aller retrouver les ferrets de la reine. Il est absolument incapable de voir que la reine, en réalité, a un amant, Buckingham. Il est complètement idiot, il ne comprend rien à
ce qu'il
fait. Il est jeune,
il ne
comprend rien à l'amour. Et alors, ce que j'aimais beaucoup, c'était Athos, parce qu'Athos, lui, a saisi tout de suite la noirceur de l'âme humaine.
C'est vrai que vous aimez bien les écrivains un peu genre Bukowski, Fante, ouais. Les écrivains aussi américains qui sont comme ça, qui n'hésitent pas à aller dans la noirceur, quoi.
Mais c'est pas seulement la noirceur, Nicolas. La littérature, c'est ce qui est plus grand que la vie. C'est ce qui élargit nos vies. On a des vies qui sont toutes très très agréables, tous, ceux qui nous écoutent aussi. Mais il y a mieux. Il y a l'aventure, il y a le grand amour.
Oui, mais
il y a la folie.
Il y a la décadence et la déchéance, justement. Je parlais de Bukowski, Fante. Ça donne pas une meilleure idée de la vie,
ah,
peut-être.
Si, je crois que si. Vous ne pouvez pas avoir la grande vie si vous prenez pas de risques. C'est ça que vous enseigne la littérature. Si vous voulez le confort, à ce moment-là, ne lisez pas. Ou alors lisez Oui, Le Club des Cinq, des trucs comme ça, où tout va bien. Lisez la littérature religieuse et édifiante. Les bons pères vous donneront sans doute une très bonne littérature. Vous allez beaucoup vous ennuyer. La vie sera très longue, bien insipide, assez fade. Non, mais allez-y, continuez, ne lisez surtout pas. Mais si vous voulez vibrer, si vous voulez avoir l'œil qui regarde bien, le regard qui porte loin, si vous voulez tout à coup sentir en vous quelque chose qui est plus grand que vous, qui vous habite, qui vous dépasse, qui vous force à vous dépasser, alors ouvrez un roman, n'importe lequel. Un polar comme ici, un livre de fantasy, un roman contemporain français. Et là, vous allez être saisi. C'est dangereux, la littérature.
François, attention, il y a le feu. On a juste le temps d'une pause pour en trouver un seul qu'on peut emmener. Ce sera l'heure du livre culte dans un instant. La Voix et Livre continue, toujours avec François Bunel, émission spéciale pour la dernière de la saison. Je suis donc chez François Bunel, en Normandie, dans une maison bibliothèque avec, on n'en a vu qu'une pour l'instant, mais on va bientôt changer, puisque je le disais juste avant la pub, il y a le feu, il faut prendre un seul livre, François.
Est-ce que c'est possible?
Ouais. Quel est votre livre culte, en tout cas?
Je me réfugie derrière Cocteau.
Oui, vous prendriez le feu.
Exactement.
S'il y a le feu, vous prenez le feu.
Exactement.
C'est pas mal.
Ou Baldwin, mais... la prochaine fois, le feu. Mais c'est la prochaine fois.
Je la fais plus sobre. Alors, votre livre culte, un de vos livres cultes. Il faut qu'on change de bibliothèque, c'est ça?
Je vous jure, on change de pièce. Revenez avec moi. On ressort. Bon, on abandonne la littérature anglo-saxonne, latino-américaine. Ça ne vous intéresse pas, ça?
Ah si, moi, l'anglo-saxonne, j'adore. Mais justement, j'ai oublié de vous poser cette question comme centrale chez vous.
Par là.
Qu'est-ce que vous avez avec l'Amérique et avec les écrivains américains? Vous avez notamment co-créé la revue America, vous partez sans arrêt sur les routes aux États-Unis pour rencontrer les plus grands monstres sacrés de la littérature américaine. Pourquoi l'Amérique?
Parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce qu'il y a la culture américaine, le cinéma américain. Parce que les premiers livres que j'ai aimés sont aussi des livres d'auteurs américains. Il y a Jack London, par exemple. London a été aussi important pour moi que Stevenson. Et que London m'a fait découvrir, en plus du côté, j'allais dire, très européen et écossais de Stevenson, les grands espaces. Et que l'Amérique, pour moi, c'est ça. C'est d'abord la démesure. Et là, je vous disais tout à l'heure, il faut vivre. Vivez. Ne vous limitez pas. Ouvrez grand les portes. Alors, quand vous ouvrez grand les portes, c'est celle de l'esprit, c'est celle évidemment qui vous mène dans la rue. Mais il y a Jack London, et puis ensuite il y a Kerouac à 14-15 ans. Alors là, c'est le choc. Puis
sur
après, il y a Fante, évidemment, Bandini, Demande à la poussière, tous ces types qui sont tankés quelque part du côté de Hollywood en Californie, et puis qui essayent de faire leur vie au milieu de femmes absolument sublimes, de voitures trop grandes, de déserts trop dangereux. Voilà, et donc évidemment, un jour, on a envie d'y aller. Puis il y a une autre chose qui est totalement prosaïque. Quand je suis arrivé en 2000-2001 à l'Express, c'était à la demande de Thierry Gandillo, qui était le patron du service culture. Et il m'avait dit, écoute, fais plutôt les écrivains américains, mais fais plutôt les portraits, parce qu'à l'époque, il y avait un journaliste qui est devenu un ami très proche, dont il faut citer le nom, parce que c'est le grand journaliste de littérature américaine, c'est André Clavel. Et André Clavel, qui est devenu un grand ami, m'a ouvert les portes de la littérature américaine, et il y a eu le 11 septembre 2001. Et je crois qu'effectivement, cette littérature contemporaine américaine, qui s'était un petit peu ankylosée peut-être à la fin du XXe siècle, après le 11 septembre, a retrouvé des couleurs. À la fois les grands chênes, par exemple les derniers romans de Philip Roth sont éblouissants, de James Salter, mais aussi toute une nouvelle génération qui va de Colm McCann à Douglas Kennedy, en passant par, je ne sais pas, moi, il y en a plein, Colson Whitehead aujourd'hui et quelques autres. Et en fait, si vous voulez, c'est aussi le fait que après un traumatisme, la littérature d'un pays montre si le pays est capable de vivre. Vous avez eu ça avec l'Amérique du Sud.
C'était le principe d'America, d'ailleurs. C'était le traumatisme Trump.
Oui, c'était ça aussi.
qui demandait justement aux écrivains américains de regarder cette Amérique par cette revue. Mais vous parliez des grands espaces, vous êtes aussi un fan de ce qu'on appelle le nature writing, la littérature de la grande, des grands espaces finalement, du Montana, etc., qui a été un peu popularisé par... Et au milieu coule une rivière, et il paraît que vous avez pêché à la mouche avec Jim Harrison, qui est notamment l'auteur de Légendes d'automne.
C'est vrai. On avait une relation assez complice avec Jim Harrison, très complice. Mais parce que ça s'est fait au fil du temps. Alors voilà, on arrive justement dans la bibliothèque américaine.
Ah oui, d'accord. Ouais. Alors là, je prends 40 secondes. Là. Donc on est dans le bureau que je reconnais parce que c'est là où vous filmez la petite librairie pour France 5.
Voilà, c'est ça.
Alors, je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a des livres partout. Alors, et il y a, on est passé juste avant par une autre petite pièce avec des livres partout et une montagne de livres. Et là, il y a une bibliothèque avec une échelle que vous êtes en train de prendre. Et une échelle, alors j'en vois parfois des échelles chez les gens, mais je vois bien qu'elles sont dans un coin et qu'on la prend rarement. Là ouais, tout est fait pour pouvoir y accéder rapidement. Alors, j'ose même pas demander le classement, là, parce que c'est une sorte de montagne. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est en forme de montagne. C'est une montagne. Pour monter tout là-haut, il ne faut vraiment pas avoir le vertige. Et d'ailleurs, il y a quoi tout là-haut ?
Ah bah tout là-haut, il y a... il faut que je mette mes lunettes parce que je vois rien. Bah voilà, si. Là-haut, ce sont les récits sur l'histoire des États-Unis. Là, on est dans la bibliothèque américaine. Il y en a deux, en fait, il y a deux pièces. Et c'est toute la littérature américaine contemporaine, enfin pas seulement d'ailleurs, toute la littérature américaine et toute la littérature sur l'Amérique, sur les grands espaces. Alors puisqu'on parle de grands espaces, évidemment... L'homme des grands espaces. C'est la seule pièce qui est vraiment classée. En réalité, les autres, c'est plus posé.
Je vois James Spielberg, je vois John Updike, je vois Nick Toshies, je vois Flannery O'Connor. Et là, vous nous prenez votre livre culte comme convenu ou pas ? Ah, Jim Harrison d'Alva.
Il faut aller chercher qu'un seul livre culte, c'est bien compliqué. Hein.
C'est le jeu, c'est le jeu.
C'est terrible. Oui, allez.
Alors, c'est d'Alva.
C'est d'Alva.
J'en étais sûr.
C'est d'Alva.
Vous nous racontez d'Alva ? Donc là, vous êtes quand même juché sur votre échelle.
Bah, c'est-à-dire que. Là, il y a tous les Jim Harrison, effectivement. J'y tiens beaucoup parce qu'il les a d'abord quasiment tous signés. Et puis, il y a les versions anglaises.
Ah ouais, vous avez des dédicaces de Jim Harrison, quoi.
Ouais. Il y a les petits bouquins que j'ai, ceux avec les préfaces là, que j'ai commises récemment en poche.
Ah oui, il y a un sacré gueuleton aussi qui est absolument incroyable.
Voilà, bon, alors Péché ça, Capito. Alors, il y a ça, oui, qui est. Ça, c'est un inédit. C'est des poèmes qu'il avait fait publier.
Oula! Avec un petit dessin de Jim Harrison par-dessus.
Ouais, il a publié ça un an avant sa mort.
Donc ça, c'est pas sorti encore ?
Non, il avait... J'espère que ça sortira un jour, parce que Jim est aussi un immense poète. Et très bien traduit, d'ailleurs. La poésie d'Harrison est très, très bien traduite. Donc voilà, moi, je choisirais peut-être que s'il fallait n'en garder qu'un seul, ce qui est terrifiant, j'emporterais d'Alva, oui.
Et alors, vous avez peut-être la réponse à une de mes questions, c'est pourquoi beaucoup de grands écrivains américains pêchent aussi à la mouche ?
Alors ça, c'est un mystère. Ouais, c'est une vraie grande question existentielle, métaphysique. Je sens qu'elle vous obsède, Nicolas Caro. Avec Jim Harrison, la réponse, c'était « La pêche, c'est une métaphore de la vie. Elle va toujours de l'avant, l'eau. » Et je me souviens qu'une fois, mon premier film va sortir au cinéma à la fin de l'année. C'est un film autour de Jim Harrison qui s'appelle « Seule la terre est éternelle ». Et je l'ai tourné à l'époque où Jim était encore en vie. Et évidemment, on tournait tout le temps. Et un matin, nous étions partis sur la Yellowstone River. On était avec les caméras embusquées. Et Jim se tourne vers moi et dit tu veux pas arrêter de scandale. Regarde, il fait beau. Il y a des trucs partout. Là, vous êtes comme des couillons avec vos perches, vos micros, comme Fabien, là, ses perches et ses micros. Bon, arrêtez-vous. Savourez l'instant. Il y avait une bouteille de Chablis qui était au frais dans l'eau. Donc on a effectivement, dans ces cas-là, quand Jim vous dit ça, vous arrêtez tout, quoi. Vous posez les caméras. Et on a passé 2 heures absolument formidables à regarder l'eau. Et à la fin, il m'a dit ce que je n'aurais pas dans le film, donc, puisque j'avais baissé le son et les caméras.
Et comme
tu
ça.
Sais pourquoi j'aime la pêche à la mouche. Regarde l'eau. Elle est comme la vie. Elle va de l'avant. Donc, te retourne pas. Ne t'auto-apitoie jamais. Va de l'avant. Quoi qu'il en coûte. Magnifique. Toujours.
Puis elles sont de la soie aussi.
Oui, aussi.
Mais alors, il y a tout. On n'a pas parlé d'Alva. Il faut quand même nous
d'Alva, c'est un livre qui est très important pour moi parce que je l'ai découvert à une vingtaine d'années, je pense, quelques années après sa traduction. Et d'Alva raconte une histoire, enfin des histoires en réalité. C'est l'histoire d'une jeune fille à qui il est interdit d'aimer, d'épouser l'homme qu'elle aime parce qu'il est indien. Et donc elle se sépare d'Alva, de cet homme, dans des conditions terribles, et leur enfant leur est arraché. Et c'est un livre absolument magnifique, peut-être le plus beau sur l'adoption. Bien sûr, il y a Dickens, bien sûr, il y a John Irving, mais c'est sans doute le plus beau livre sur les orphelins et l'adoption, puisqu'on va suivre sur trois générations l'histoire à la fois de Dalva, de ce fils, mais aussi du grand-père, dont on découvre qu'il est, et ça c'était l'une des grandes obsessions de Jim Harrison, il a été très proche à un moment des Sioux, de l'armée, ça je vous dis pas hein, ce qui s'est passé, mais il y a les carnets du grand-père. Et les carnets du grand-père racontent la manière dont l'armée américaine a orchestré ce que Jim Harrison appelle le génocide des Indiens. Mot qu'on n'emploie jamais aux États-Unis, et Harrison a été le premier à l'utiliser dans les années 80 pour parler de ce qui était pudiquement nommé une déportation, un massacre, dans le meilleur des cas. Non, génocide. C'est-à-dire que là où les Blancs ont décidé de s'installer, il a fallu tout massacrer. Il y avait 17 millions de bisons en 1850, il en restait 4 000 en 1870. Et les bisons étaient la nourriture des Indiens. C'est-à-dire que quand les Indiens n'ont pas pu être tous exterminés, un type qui s'appelle Sheridan a décidé de s'attaquer à ce qui représentait pour eux leur totem, leur lieu sacré. Aussi, les terres et les bisons. Et il a apporté, ce que Jim Harrison montre très bien dans Dalva, la dépression. Concept et idée même qui ne pouvaient pas exister chez des Indiens qui se satisfaisaient de leur rapport au ciel et à la terre, et évidemment à cet animal totem. Et Jim, dans ce livre qui est éblouissant, étincelant, très bien traduit par Brice Mathieu-Sang, a raconté, je pense avec le plus de finesse possible, comment la grande histoire, celle donc d'un génocide, d'un peuple entier, peut impacter la minuscule histoire, celle d'un orphelin né au fin fond du Nebraska et qui écoute une musique qui pourrait être The River de Bruce Springsteen en essayant de comprendre pourquoi il est à moitié indien et à moitié, quoi, finlandais, suédois, émigré de toute façon, puisqu'il est entendu que les seuls peuples réellement américains, ce sont ceux qu'on a génocidés.
Pourquoi on a tant de mal à choisir un roman culte? Vous vous êtes décidé pour Dalva, qui est un de vos romans cultes, mais est-ce que c'est parce que, en fonction des jours et des périodes de la vie, éventuellement, notre livre préféré, celui qui nous correspond le plus, celui avec lequel on est le plus en phase, c'est ça ce qu'on appelle un livre culte finalement, change?
Moi je crois que c'est parce qu'on aime tout et que c'est peut-être le seul endroit dans l'amour où vous pouvez être infidèle. C'est très beau. C'est compliqué avec la femme que vous aimez ou l'homme que vous aimez parce que vous l'aimez trop. Et donc finalement, la question de l'infidélité ne se pose plus, elle disparaît. Vous voyez, moi je suis très fidèle parce que j'aime. Mais les livres, c'est autre chose. C'est l'endroit où vous pouvez, selon vos humeurs, votre âge également. Je crois qu'on n'est pas le même. Moi je ne suis plus le même à 52 ans que je l'étais à 42 ou à 32 ou à 22. Mes goûts ont changé. Parfois pour le pire, et parfois, je l'espère, pour le meilleur. Donc oui, c'est très difficile, je crois, de s'arrêter sur un seul livre.
Et vous relisez et puis, la diversité différemment.
Ah oui, je l'ai relu très différemment. Je l'ai relu deux fois. Je n'ai pas besoin de le relire beaucoup, parce qu'il est tellement puissamment inscrit en moi que, voilà, c'est peut-être aussi la bénédiction de la première lecture. Vous voyez, cette espèce de moment de magie où il y a à la fois identification au personnage, mais aussi à des mots. Vous savez, Dalva, moi j'étais dans un brouillard, et puis tout à coup, Jim Harrison allume la lumière. Vous voyez ?
Vous faites quoi quand vous lisez Dalva pour la première fois ? Vous en êtes où de votre vie ?
Je rentre d'Afrique, où
vous
j'ai passé
reporter.
Déjà deux ans, voilà, où j'étais. Je faisais du reportage dans des zones de conflit, des zones de guerre, et je m'apprête à partir au Kurdistan irakien. C'est en 1993 ou 12, donc j'ai 22-23 ans. Et c'est un moment très compliqué de ma vie où je ne sais pas trop quoi faire, où les livres ont une importance très grande, mais je ne sais pas encore que je vais parler d'eux un jour. Et j'ai envie de voyager, de voir le monde. Je crois, peut-être un peu naïvement, que le journaliste doit être utile, qu'il faut se rendre sur place, raconter, témoigner, dire. J'ai lu Kessel, j'ai lu Jack London, qui m'ont bouleversé, Henri de Monfray. Je m'imagine un peu petit frère de Corto Maltese et je veux aller voir. Évidemment, très rapidement, je m'aperçois que ça n'est pas mon monde, mon milieu, et que j'ai pas envie de terminer comme le consul, vous savez, d'au-dessous du volcan, qui est vissé au comptoir, comme tous ces grands reporters de papier, et qui racontent ces guerres. Donc je me dis, c'est pas pour moi. Mais quand je lis d'Alva, j'en suis à un moment de ma vie où je ne sais pas vraiment quelle direction prendre. Et tout à coup, ça y est, c'est clair. Je dois d'abord aller rencontrer cet homme et comprendre ce monde, cette autre culture. Harrison disait, on ne peut pas comprendre une autre culture tant qu'on tient à conserver et à défendre la sienne. Et donc je crois qu'il faut quitter ses racines. C'est aussi ça la leçon de d'Alva. C'est que ce repli identitaire auquel on assiste tant en France, qu'on nous inculque d'ailleurs presque à l'école avec le roman national, en histoire, etc., n'a aucun lieu d'être. Et la littérature vous apprend ça. Vous pouvez, si vous voulez, vous accrocher à vos racines, mais elles sont fictives. Ce sont des fictions. Ce sont des histoires. Et donc j'en suis là, et d'Alva m'emmène en Amérique.
Harrison, vous lui avez dit tout ça ou pas ?
Ouais, je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit, j'ai eu la chance de lui dire, parce qu'on s'est beaucoup, beaucoup vu pendant les 20 dernières années, pour des raisons très étranges. Quand il venait à Paris, je raconte dans les préfaces que j'ai écrites, là, notamment pour ses mémoires En Marge, il me demandait souvent, il y a eu un coup de foudre, voilà, à quoi ça tient une amitié comme ça, je ne sais pas. On parlait d'autre chose, on parlait de ce qu'il appelait la bibliothèque, qui était la cave en réalité, ce qu'il lisait les étiquettes sur les grands crus. Et je l'emmenais en voiture, on allait faire des virées, et on avait fait une fois cette route extraordinaire qui mène, parce qu'il voulait à tout prix découvrir ce pays-là, qui était pour lui l'exotisme parfait. Il voulait, devinez quoi, voir la Sologne. Il voulait voir le pays du Grand Maulne, d'Alain Fournier.
Ah ouais, il lisait le Grand Maulne.
Oui, il avait lu le Grand Maulne, qui avait été, lui, une de ses révélations. Alors je lui dis, mais pourquoi tu veux voir la Sologne ? Il me dit, parce que je voudrais savoir où Maulne a vu Yvonne pour la première fois.
Où était la fête ?
Voilà. Vous vous souvenez de ce passage extraordinaire où Maulne fait le mur et
raconte ensuite mariage,
à François.
En fait.
Voilà. Puis alors je l'appelais François, donc il m'appelait le grand Maulne.
Ah oui. Puis ensuite il s'en va et puis il a l'impression, il ne sait pas s'il a rêvé ou s'il a vraiment vécu ça. Ouais, et il essaye de le retrouver. C'est aussi une belle allégorie.
Il retrouve jamais. C'était
éventuellement de la bonne de la lecture d'un bon roman. On ne sait pas si on l'a rêvé ou si ça a vraiment existé.
C'est ça.
Et je voulais vous parler justement en parlant d'unique roman de Salinger.
Ah bah.
Et La Trappe-Cœur. Est-ce que ça fait partie de votre panthéon
ou pas ? Ah oui, oui, bien sûr. C'est peut-être aussi ça d'ailleurs maintenant que vous cuisinez. C'est peut-être aussi ça l'Amérique. Parce que simultanément, à peu près au même âge, j'ai lu Sur la route de Kerouac, qui évidemment donne envie de foutre le camp dès qu'on a refermé la dernière page, et Les Tribulations d'Holden Caulfield. À Manhattan, dans un taxi.
Qui est un gamin de 14 ans qui fugue et qui se balade pendant 3 jours dans New York, tout seul.
À la rencontre des prostituées, des parieurs et des canards sauvages. Donc on se demande bien où ils vont quand le lac
est gelé. Quand le lac est gelé.
C'est l'un des plus beaux livres de la littérature, L'Attrape-cœur. C'est magnifique.
The Catcher in the Rye dans la version originale, L'Attrapeur dans le Seigle. C'est aussi ça la magie de la traduction, parce que ce titre, il est aussi culte en français qu'en anglais.
Il est même sur mon bureau.
Ah, ben voilà. Dans la belle réédition de Pavillon Poche de chez Robert Laffont.
Europe 1.
Dans un instant, suite et fin de la visite de la bibliothèque, des bibliothèques de François Bunel.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Et on retrouve tout de suite François Bunel dans ses bibliothèques. On arrive à la séquence des libraires. Je ne vous ai pas posé la question encore. Pourquoi la grande librairie? Quel est votre rapport aux libraires? Depuis longtemps, vous leur donnez la parole en coup de cœur, etc. Vous avez appelé votre émission La Grande Librairie.
Parce que j'aime les libraires. Voilà. Parce que c'est le métier que j'aurais aimé faire, au fond. Voilà. Parce que je trouve que le libraire est essentiel. Tout comme j'ai trouvé ce débat sur le livre produit ou le livre bien absolument détestable. Un livre n'est ni un produit, ni un bien. Et un livre est essentiel. Le libraire, c'est le poumon d'une ville. Le libraire, c'est le lien social. La librairie, c'est l'endroit où vous pouvez tout faire. Vous pouvez draguer, vous pouvez rencontrer des amis, vous pouvez passer d'un monde à l'autre, comme on est en train de le faire, en passant du polar à la fantasy, de la littérature américaine au classique français. Il suffit de faire un pas. Vous pouvez devenir quelqu'un d'autre que vous-même. Vous pouvez vivre d'autres vies que la vôtre dans une librairie. Et surtout, surtout, vous faites partie de cette communauté un peu secrète, des gens qui se reconnaissent d'un clin d'œil parce qu'ils voient « Ah tiens, vous aussi, vous faites partie des lecteurs de... qui ? Kerouac ? Ah, Fitzgerald ? Ah non, Nicolas Caro ? Ah ben oui.
Bon courage. On n'a pas fait le tour encore de toute la maison.
Je sais qu'il y en aura trop.
Mais est-ce qu'il y a une autre pièce qu'on pourrait... qu'on pourrait explorer?
Bah alors on a ça, c'est une pièce importante parce
alors
que...
là oui, là il faut quand même que je décrive. Bon,
ça,
aussi
c'est pas... non mais c'est pas trié ça, Nicolas.
Non, bah, c'est pas trié, mais enfin il y a, je sais pas, allez, il y a quoi, il y a 1000 livres en pile. C'est qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils s'en vont, ils arrivent,
ils attendent? Non, ils restent. Ah, là vous plaisantez, ils restent. Non, tout ça c'est tous les livres. J'ai une grande passion pour la Révolution française et Napoléon, donc ça c'est l'Empire.
Ah ouais, il y a tout un tas de livres sur l'Empire.
Et puis ça c'est les livres sur la musique, parce que vous voyez, c'est ça qui est important. La musique, c'est une
il y a un piano dans la pièce juste à côté
aussi, oui, mais j'en joue très mal, donc je ne jouerai pas de piano aujourd'hui. Mais la musique, c'est capital. Alors il y a tout, il y a des biographies de Paul McCartney, des Rolling Stones, il y a la vie des groupes du blues du Mississippi. Mais là, c'est une bibliothèque importante parce que
on ça a fait encore une échelle et une montagne. Hein.
Ouais, c'est l'Antiquité. Voilà, tout ça, si vous voulez, c'est nos sources.
Ah mais c'est vrai que vous êtes un fou des mythes.
Oui, de la mythologie grecque.
Vous aviez même une émission qui raconte la mythologie.
Voilà, une série animée. 3 saisons sur les mythes grecs que j'avais réalisées et écrites pour Arte.
Qu'on retrouve dans absolument tous les romans, finalement, ces histoires-là. Plus ou moins transformées.
C'est exactement ça. C'est la source. Alors, vous savez, évidemment, vous parliez de pêche à la mouche, mais il y a la truite et parfois il y a le saumon. Et ce que j'aime dans la rivière, c'est que le saumon est le seul à faire mentir Jim Harrison, c'est-à-dire à aller à l'envers et à remonter à la source. Et de temps en temps, il faut aller voir la source. Mais ça, c'est le truc des journalistes, vous voyez. On essaye de savoir d'où ça vient, comment ça se passe, pourquoi on est devenu l'homme qu'on est devenu ou la femme que l'on est devenu. Et alors, si on veut s'intéresser à la littérature, il faut à un moment revenir à la source. Et la source, c'est Rome. Et avant Rome, c'est bien sûr Athènes et les Grecs. Et puis, si on remonte encore plus loin, on a l'Égypte, on a la Mésopotamie. Et donc, il faut avoir son Dumézil, qui est un des livres que je relis très souvent. J'y puise énormément de choses. Parce que Dumézil, c'est l'éclectique. C'est l'historien, c'est l'ethnologue, c'est le philosophe, c'est le poète. C'est celui qui prend toutes les sources. Donc, il y a Homère. Voilà. Alors ça, c'est aussi un de mes grands classiques. L'Odyssée. C'est peut-être l'un des livres que j'ai le plus relu.
Alors, on vient de changer de pièce, François. On est dans une autre des parties de la bibliothèque maison chez vous. Et alors, cette fois, il n'y a pas d'échelle. Il y a un petit escabeau quand même pour pas se bloquer le dos en allant chercher les livres du haut. Mais là, ce sont les classiques, c'est ça? On est dans la pièce des classiques?
Oui, là, c'est les classiques français.
Elle est bien, cette pièce. Elle est un peu fraîche.
Ouais. Alors, je lis ici. Vous voyez, il y a un fauteuil.
Avec les tomates et
un
tout.
Un fauteuil simple, tout simple. Voilà. Pas forcément très confortable, parce que pour lire, vous savez ça, hein, Nicolas, il ne faut pas s'enfoncer. Donc il faut que le dos soit bien maintenu pour y passer 6 heures ou 8 heures. Et cette pièce est formidable parce que là, je suis entouré de ceux que j'aime. D'abord, il y a Jim qui est là, qui me surveille, affalé. J'adore cette photo. Il est affalé sur son divan et il me regarde, goguenard.
Il est jeune, là, il a 40 ans.
Ouais.
Et alors, les classiques, qu'est-ce que vous appelez les classiques? Je vois Diderot, je vois Rimbaud, Et puis il y a toute la littérature 19e et je vois du Dumas là.
Ah bah il y a tout Alexandre Dumas. Alors vraiment tout Alexandre Dumas dans des dizaines d'éditions. Dumas a été un de mes grands pourvoyeurs de rêves, un dealer de rêves. Quand j'étais adolescent, j'étais un pied dans le rock'n'roll, dans les Clash et le punk, et l'autre pied dans le classique. Très bizarre, hein. Et je pouvais écouter Jean-Sébastien Bach et Monteverdi et me lancer dans la lecture d'Alexandre Dumas, dont j'ai dévoré absolument tout. Évidemment, Les Trois Mousquetaires, 20 ans après Le Vicomte de Bragelonne, mais aussi La Reine Margot, Les 45, toute la série sur la Révolution française qui est prodigieuse.
Joseph Balsamo, Comtesse de Charny,
bien sûr. Ouais. Avec... Ouais. Ça, est-ce que vous avez tout ? Vous apprenez l'histoire de France et vous apprenez aussi la manière dont les passions gouvernent la politique. Ça, c'est ce que Dumas a su faire mieux que tout autre. Il vous raconte l'histoire et la façon dont une histoire d'amour, tout à coup, fait dérailler le pouvoir et vous lance dans les massacres, les conspirations ou les guerres.
Dans ce continent, il y a quand même une capitale ou le centre, disons, peut-être pour moi en tout cas, c'est le Comte de Monte-Cristo que je viens de trouver là dans votre bibliothèque, mais que je trouve quasiment dans toutes les bibliothèques.
Oui, bah oui,
qu'est-ce qu'il a, ce livre d'aussi incroyable et d'aussi mythique, quoi ?
C'est le livre parfait. Voilà. C'est-à-dire que dans le Comte de Monte-Cristo, vous avez tout, tout, tout. Le divertissement d'abord, c'est une grande série d'aventures. L'histoire quand même d'un jeune homme qui, en deux mots, se fait du jour au lendemain jeter en prison sans savoir pourquoi. Il y passera 14 ans et découvrira, 14 ans plus tard, ce que nous, lecteurs, nous savons depuis le départ, la conspiration d'un jaloux qui veut lui piquer sa maîtresse, d'un cupide qui veut gagner de l'argent, d'un lâche qui va se joindre à la conjuration et prétendre être un général alors qu'il n'est qu'un vulgaire soldat de taverne, et puis un procureur véreux. Bon, et puis il s'évade, il fait fortune et il revient se venger. Sauf que Dumas y ajoute toute la philosophie de l'époque et toute la grande question philosophique que Dostoïevski ensuite va prendre dans La Légende du Grand Inquisiteur et Les Frères Karamazov, parce que pour moi, ils sont jumeaux, hein, les deux. C'est-à-dire que Monte-Cristo tend la main aux Frères Karamazov. La grande question, c'est « Puis-je faire justice sans me venger ?» Quelle est la différence entre la justice et la vengeance ? Monte-Cristo, Edmond Dantès, a été injustement jeté en prison. Mais quand il se venge, qui se venge ? Dantès n'existe plus, il est mort en prison au château d'If. Monte-Cristo n'est qu'une fiction. Et donc, tout à coup, Dumas pose la grande question de la politique. Mais vous savez, Dumas, c'est un immense philosophe. Je pense qu'il y a un métaphysicien chez Dumas. On a parlé tout à l'heure d'Athos, le comte de l'affaire, le seul des mousquetaires un peu intéressant. Excusez-moi, mais enfin Porthos qui pense qu'à bouffer et à se battre.
Doucement sur les mousquetaires.
François. Ah écoutez, mon petit vieux, on va lancer un grand débat. Franchement, vous le trouvez sympathique, ce D'Artagnan qui...
Courageux, au moins.
Courageux, oui, enfin comme toutes les têtes brûlées.
Orgueilleux,
fier, plus qu'intrépide.
Et Aramis.
Aramis. Alors il subit Aramis,
extrême,
mais il représente moi tout ce que je déteste, tout ce que j'ai peur de devenir. Courtisan, un peu lâche, manipulateur, y compris de ses amis, à se demander où il met l'amitié. Il n'y a qu'une scène sublime, c'est la mort de Porthos. Voilà, à Belle-Île-en-Mer, à Locmaria, et voilà, et où Porthos meurt en soutenant les rochers de la grotte de Locmaria pour qu'Aramis puisse s'en aller. Aramis qui a trahi sous ses amis en devenant le général des jésuites. Voilà. Et D'Artagnan qui fait en sorte, c'est là où après, mais là on est dans Bragelonne, donc D'Artagnan est enfin devenu un grand héros de littérature qui va retarder les hommes qui sont supposés se jeter sur Porthos.
Et justement, c'est ça ce qui est intéressant avec D'Artagnan, contrairement à Athos, que j'adore, qui est un de mes grands héros. Mais Athos, il reste le même, finalement, dans ses ambiguïtés. Précisément
parce qu'il perd son fils.
Il perd son fils.
Et oui, et alors là, ça changera tout.
Il plonge encore plus dans la noirceur. Mais juste avant, il y avait eu Milady, etc.
Ah, bon, bref. Vous vous souvenez de la scène sublime, l'exécution de Milady. La phrase de Tréville. Ça, alors là, mais rien que pour ça, tout le monde doit lire Les Trois Mousquetaires, même les jeunes. Je me souviens que cette phrase, c'est tout. Chapitre, le bourreau de Béthune, les quatre amis assistent de nuit à l'exécution de Milady. Il y a là la femme que D'Artagnan aime malgré lui, celle qui a donné un fils à Athos. Athos fait couper en deux cette femme, et les quatre reviennent, nous dit Alexandre Dumas, sans dire un mot, de Béthune à Paris. Et le lendemain, ils se présentent chez le capitaine des mousquetaires, M. de Tréville, qui leur avait donc accordé cette permission, et Tréville leur lance « Ah, mes braves, vous êtes-vous bien amusés ?» Et Dumas écrit « Ils se regardèrent, point, Athos dit, deux points, prodigieusement, point, fin de la première partie. » C'est éblouissant. Mais Athos, il annonce déjà Dantès et Monte Cristo.
Absolument.
Vous trouvez pas ?
Mais D'Artagnan, lui, il évolue.
Oui, il évolue.
C'est un petit con au début, effectivement, mais tout doucement, jusqu'à ses 60 ans, jusqu'à la fin, jusqu'à au siège de Maastricht.
Déjà dans 20 ans après, hein, il n'est plus le même. Il a un secret.
Il a déjà
40. Oui, c'est peut-être ça, la littérature, Nicolas. On y arrive. C'est le secret. Il faut avoir des secrets pour écrire. Et c'est intéressant d'aller interroger les écrivains, comme vous le faites, pour essayer de percer le mystère. On n'y arrive jamais, hein. On jette des torches dans l'abîme. Enfin, ça éclaire un peu. Regardez, le génie. Non mais, regardez, on prend au hasard. La reine Margot, tome 2, première phrase. En sauvant la vie de Charles, Henri avait fait plus que sauver la vie d'un homme. Il avait empêché trois royaumes de changer de souverain. Non mais attendez, c'est pas de l'inquiétude ça ?
Eh bien alors justement, moi j'ai le vicomte de Bragelonne, qui est donc la suite des trois mousquetaires dans les mains, et je vous lis les dernières lignes qui feront une belle conclusion. Plutôt, je vous laisse les lire, si vous voulez bien, à partir d'Athos.
J'ai pleuré. Comme Dumas, dont on dit qu'il pleura lorsqu'il écrivit ses lignes.
C'est son fils qui raconte ça, oui.
Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, faut contextualiser, on est à la bataille de Maastricht, et elle est gagnée pour les Français. D'Artagnan commande l'armée française. Un estafette lui apporte une lettre de Colbert, qui le nomme maréchal, la plus haute distinction. D'Artagnan, ivre de joie, fit un signe au messager qui s'approcha, son coffret dans les mains. Mais au moment où le maréchal allait s'appliquer à le regarder, une forte explosion retentit sur les remparts et appela son attention du côté de la ville. « C'est étrange, dit D'Artagnan, que je ne vois pas encore le drapeau du roi sur les murs et qu'on n'entende pas battre la chamade. » Il lança 300 hommes frais sous la conduite d'un officier plein d'ardeur et ordonna qu'on bâtît une autre brèche. Puis, plus tranquille, il se retourna vers le coffret que lui tendait l'envoyé de Colbert. C'était son bien, il l'avait gagné. D'Artagnan allongeait le bras pour ouvrir ce coffret, quand un boulet, parti de la ville, vint broyer le coffre entre les bras de l'officier, frappa D'Artagnan en pleine poitrine et le renversa sur un talus de terre. D'Artagnan essaya de se relever. On l'avait cru renversé sans blessure. Un cri terrible partit du groupe de ses officiers, épouvanté. Le maréchal était couvert de sang. La pâleur de la mort montait lentement à son noble visage. Appuyé sur les bras qui, de toutes parts, se tendaient pour le recevoir, il put tourner une fois encore ses regards vers la place et distinguer le drapeau blanc à la crête du bastion principal. Ses oreilles, déjà sourdes au bruit de la vie, perçurent faiblement les roulements du tambour qui annonçait la victoire. Alors, serrant de sa main crispée le bâton brodé de fleurs de lys d'or, il abaissa vers lui ses yeux, qui n'avaient plus la force de regarder au ciel, et il tomba, en murmurant ces mots étranges, qui parurent aux soldats surpris autant de mots cabalistiques, mots qui avaient jadis représenté tant de choses sur la terre, et que nul, excepté ce mourant, ne comprenait plus. Athos, Porthos, au revoir. Aramis, à jamais, adieu. Des quatre vaillants hommes dont nous avons raconté l'histoire, il ne restait plus qu'un seul corps. Dieu avait repris les âmes. Ah là là, c'est
quand
beau.
Même incroyable quand on arrive au bout de 5000 pages.
Il m'a pas prévenu le cochon.
Paf !
Il fait dire ça.
C'est vrai que c'est ça aussi, quoi. Ça devient vraiment des amis. Alors là, ça parfois c'est allégorique,
amis,
parfois c'est une manière de dire, là oui. Quoi.
Mais oui, parce qu'on vit avec eux, on vibre avec eux, et puis regardez la manière dont il le dit. Il ne suffit pas de tuer Porthos ou de tuer D'Artagnan. C'est la façon dont vous le faites. C'est la marque des très grands. C'est la marque des très grands.
Merci beaucoup François Bunel. On
merci Nicolas.
Sur ces belles paroles, les très très belles paroles. À bientôt François Bunel.
À bientôt, merci.
Europe 1.
Retour à Europe 1 après cette belle visite et merci beaucoup à François Bunel. Dernière page de cette émission. Merci à Boris Paczynski et Agnès Vaudin. Merci à vous aussi de nous avoir suivis toute l'année. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour les séries d'été consacrées aux monstres sacrés de la littérature et on commencera par Marcel Proust, carrément.